Vous écoutez RTL.
Il est 14h03 sur RTL, on retrouve nos amis de la curiosité. Bonjour.
Bonjour à vous, Christelle.
Bonjour, Christelle. Oui, 95 000 euros, c'est pas mal. Hein.
Bah oui,
une belle petite
vous avez
somme,
joué ça.
Bah non.
Eh bah voilà, moi non plus,
bah voilà,
c'est bien le problème.
On ne peut pas gagner.
Ça nous apprendra.
Ah bah bravo.
Bon après-midi, Christelle.
Vous aussi.
Bonjour à toutes et à tous. C'est la curiosité sur RTL. On est ensemble jusqu'à 15h, vous le savez, pour vous raconter des histoires, dévoiler des secrets, entrer dans les coulisses. On se cultive dans la bonne humeur. Salut Sidonie.
Salut Thomas, salut les curieux. C'est la saison des carnavals. Et vous découvrirez dans la curiosité d'où vient cette fête haute en couleurs et en tradition. Tiens, pourquoi porte-t-on des masques à Venise? Jette-t-on des harengs à Dunkerque? Et pourquoi Donald Trump est l'une des stars du carnaval de Nice? Bah oui, pourquoi? Réponse vers 14h30.
Allez, tout de suite, on se sert un verre d'eau et on se pose une question toute simple. Mais elle vient d'où, cette eau?
14h-15h. La curiosité est un vilain défaut.
L'eau est importante puisque c'est une ressource doublement vitale pour l'homme. D'une part, elle est nécessaire à son fonctionnement biologique. Et d'autre part, l'eau est nécessaire à l'agriculture, donc elle permet de produire l'agriculture.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
70% de l'usage de l'eau est dédié à l'irrigation. Donc c'est pour ça que l'eau est un véritable enjeu essentiel à étudier dans le cadre donc du développement durable.
Sur RTL.
Et Coldplay qui nous accompagne pour parler de l'eau. Every teardrop is a waterfall, ça veut dire chaque larme est une chute d'eau. C'est
une
joli.
Cascade,
une
même,
cascade,
ouais,
on peut
beau,
dire
hein,
ça comme ça. Bonjour Maryse Massé.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Alors, question toute simple pour démarrer. On consomme par an et par personne combien de litres d'eau?
À peu près 148 litres
ouais.
Par personne hein, et par an. Et la plupart du temps, c'est pour se laver. 39% de nos usages, c'est pour les bains et les douches.
148 litres, je ne me rends pas bien compte, c'est une grosse consommation, une petite consommation
non,
en hausse, en baisse?
C'est pas la plus grosse consommation en Europe hein, et surtout dans le monde parce qu'on a les États-Unis, ils sont entre 300 et 400 litres. Donc vous voyez, c'est totalement différent.
Mais ils se lavent beaucoup, les Américains ?
Je ne sais pas exactement ce qu'ils font avec leur eau. Peut-être qu'ils ont plus de piscines, je ne
ou
sais pas.
Ou de jardins, oui.
Ou les jardins, etc. Ouais. En tout cas, ça a baissé en France. Alors, ça n'a pas baissé parce que les gens... Enfin, si, il y a déjà le fait que les gens consomment moins. Ils ont pris conscience que l'eau était devenue fragile. Donc, ils font très attention. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'améliorations aussi dans l'électroménager, par exemple. Hein, nos machines à laver se sont adaptées et on dépense moins d'eau.
Et consomment moins d'eau. Est-ce que les Français, globalement, sont satisfaits par la qualité de l'eau du robinet?
Alors, c'est un des rôles du centre d'information de voir justement les perceptions qu'en ont les consommateurs. Et on peut dire que depuis à peu près une bonne quinzaine d'années, on a une satisfaction qui est très haute. Hein. On est à plus de 70% de satisfaction.
Pas mal.
Et dans la qualité. Et d'ailleurs, on est même plus quand les gens s'interrogent sur le service public de l'eau. Là, on est cette année à plus de 8 Français sur 10 qui trouvent qu'ils ont un service qui leur donne une bonne qualité d'eau et un bon service.
Et pourtant, parfois, on s'en plaint de cette eau. On dit, par exemple, qu'elle a un drôle de goût ou qu'elle est trop calcaire.
Oui. Oui, c'est...
Ce goût, c'est le chlore, par exemple,
alors,
dans certaines
être...
régions.
Alors, ça peut être... Le goût, c'est deux choses différentes. Soit c'est le goût naturel de l'eau, c'est-à-dire que quand elle passe dans des roches et qu'elle est minéralisée, ça peut donner des goûts différents. Il y a aussi, des fois, des problèmes... Hein. Qui arrive quand on produit l'eau ou quand on fait des travaux, on referme ensuite les canalisations et le temps que ça se purge, des fois, on a l'impression d'avoir un drôle de goût de terre, de fer, etc. Alors, ça ne dure pas et ce n'est pas dangereux, mais ça existe. Et puis, oui, il y a le fameux problème de chlore.
Ça, on le rajoute, le chlore, c'est ça ?
On le rajoute. Alors, pour vous donner une idée, c'est très peu, en fait. C'est deux gouttes dans une baignoire. Enfin, si on mettait dans une baignoire, voilà, on
beaucoup.
Arrive à ça. C'est pas beaucoup.
Mais
sauf que
le chlore,
c'est hyper efficace.
Ah oui.
C'est-à-dire que depuis qu'on met du chlore pour traiter l'eau potable, évidemment, on n'a plus toutes ces maladies qu'on connaissait au 19e, encore au début du siècle dernier. Donc, il y a une vraie amélioration. Alors après, on peut donner un conseil. Hein, puisqu'on sait qu'il faut absolument mettre ce chlore pour permettre que l'eau soit bonne et de bonne qualité jusqu'à votre robinet, puisqu'elle parcourt des tuyaux, c'est là où elle pourrait se dégrader, eh bien, il suffit de la mettre dans une carafe ou dans une bouteille, et puis de laisser aérer, et ce gaz va partir et vous récupérerez un bon goût.
C'est pas mauvais pour la santé, Marie-Lise Massé, le chlore, même deux gouttes dans une baignoire?
Si c'était mauvais, on ne l'utiliserait pas. Quand c'est bien dosé, c'est toujours pareil. Mmh. Hein, tout produit doit être très bien dosé et c'est des choses où on fait très attention. On a des techniciens qui constamment, tous les jours, ont robotisé toutes ces actions, par exemple pour mettre du chlore. Donc quand on le fait bien, et on n'a pas de soucis.
Elle est stockée où, notre eau du robinet? Par exemple, dans une grande ville, on est à Neuilly, dans une grande ville comme Paris, à quoi il y a des... Moi, je ne les vois pas, les châteaux d'eau. Il y a des châteaux d'eau dans Paris? Est-ce qu'elle est stockée quelque part?
Alors, il y a deux choses maintenant. C'est vrai qu'on pense toujours aux châteaux d'eau que l'on voit encore dans nos campagnes ou dans certaines villes, mais il y a aussi des réservoirs, tout simplement, qui sont donc enterrés et qui permettent de stocker l'eau. Alors Paris, ça doit être 4-5 jours, vous voyez, on stocke l'eau pour plusieurs jours, et puis en fait, on la fait passer dans les tuyaux, mais selon les demandes, on analyse les demandes, et on fait repartir l'eau selon la demande et selon l'heure, évidemment.
Marie-Lise Massé, l'eau qu'on utilise, l'eau qu'on a dans le robinet ou quand on prend sa douche, n'est pas la même partout en France. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais j'ai fait un shampoing, par exemple à Paris, un shampoing dans les Landes et un shampoing en Bretagne. Eh ben, j'ai pas les cheveux qui réagissent pareil. J'ai l'impression qu'il y a du calcaire, peut-être des doses de calcaire différentes. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est pas la même chose. Et ce sont les mêmes cheveux.
Et le même shampoing. C'est pas la même eau. Parce qu'effectivement, vous avez plus ou moins de calcaire selon les endroits où elle passe. En Bretagne, par exemple, la géologie fait que l'eau est très douce. En Auvergne aussi. Mais quand vous êtes, par exemple, en Normandie ou quand vous êtes dans le centre, dans des endroits, en fait, qui sont argileux, calcaire, votre eau est très calcaire.
Et ça a un impact sur la peau, les cheveux et tout ça?
Non, ça a un impact. Alors, ça
quand
a un impact.
Si j'ai la peau sèche, c'est pas lié au calcaire.
On peut se demander, je crois que c'est pas vraiment prouvé. D'accord. Est-ce qu'on peut pas plutôt se demander que quand l'eau est calcaire, vous mettez plus de shampoing, plus de produits. Si votre produit, vous pouvez avoir des réactions, vous pouvez. Bon, moi je pense quand même un peu comme vous. Pour voir dans certains endroits qu'on se récupère une petite pellicule blanche, que il doit y avoir quand même quelque chose qui génère des gratouilles sur la peau. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le calcaire, c'est pas bon pour votre électroménager, peut-être pas bon pour votre peau, mais en tout cas, c'est très bon puisque c'est calcium-magnésium. C'est quelque chose que vous allez chercher. Bien sûr, parce que c'est quelque chose que vous allez chercher vous-même dans votre alimentation.
Oui. Ou en complément alimentaire,
etc. Donc, voilà.
Donc, c'est quand même bon pour la santé. Devient l'eau que l'on a utilisée? Tiens, par exemple, après une douche ou un bain, est-ce qu'elle est forcément recyclée? Réponse à venir sur RTL.
Et ça, la nouvelle arme terroriste, la voici. Une bouteille d'eau.
RTL.
Quand un douanier voit ça, s'il vous plaît.
Moi, je dis non, j'allais faire un gros coup, en effet. Non, c'est vrai, ouais. Je voulais en mettre sur la moquette, comme ça, les gens dans l'avion, en chaussettes, ils marchent dessus, enfin bon.
La curiosité est un vilain défaut?
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Jean-Claude Van Damme qui adore l'eau. Gad Elmaleh dans la peau d'un terroriste. Oui. Aquatique, on peut le dire.
Mais on en rigole, mais malheureusement, dans certaines régions du monde, on fait la guerre de l'eau.
Exactement, et puis Véronique Sanson qui chante magnifiquement « Rien que de l'eau ». Le cycle de l'eau dans la curiosité, on est avec Marie-Lise Massé, la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Et on va profiter de votre présence pour donner quelques bons conseils pour économiser cette eau qui est très précieuse. On commence par les fuites d'eau, tiens. Où sont-elles les plus fréquentes? Dans les toilettes?
Dans les toilettes?
Oui.
Dans les toilettes, vous pouvez avoir, à cause d'une fuite d'eau, vous pouvez avoir facilement à la fin de votre année 200 € en plus sur votre facture.
Et la fuite, elle est extérieure autour des toilettes ou elle est à l'intérieur dans la chasse d'eau?
Vous savez,
dans
quand vous voyez goûter vos toilettes, c'est ça une fuite déjà.
Ah oui, le petit truc insupportable.
C'est insupportable qui fait du bruit. Voilà, ça c'est une fuite et qui l'air de rien, c'est du goutte à goutte, mais n'empêche qu'à la fin de l'année, vous avez dépensé pas mal d'eau et d'argent.
200 € par an, effectivement, ça fait beaucoup. Alors, moi, je le fais plus, mais il y a quelques années, je mettais une brique dans le réservoir. Est-ce que ça marche, hein, et est-ce qu'on le fait toujours?
Oui,
pour moins consommer d'eau quand on tire la chasse.
Ah oui, ah bah, n'allez plus aux toilettes aussi.
J'ai appris quelque chose à Sidonie Bonnec, mais ça. Alors, est-ce que
je
ça marche
pas non,
bien sûr que ça marche. Oui. Parce qu'en fait, quand vous l'achetez en grande surface, ce genre de système, vous le réinventez chez vous. Il y en a qui mettent des bouteilles. Enfin, le tout est de faire contre-balance pour justement que ça se remplisse.
Ça marche comment en fait? Tout simplement, il y a un peu moins d'eau dans le réservoir et donc ça.
Il y a moins d'eau.
On consomme moins d'eau.
Et donc, vous consommez moins d'eau. C'est le système du double commande. Vous savez, maintenant, quasiment toutes les toilettes sont installées avec des doubles commandes, un fort, un plus... Vous faites la même chose.
Ben voilà, vive la brique alors.
Et alors, vous parliez des appareils ménagers, justement. Il faut aussi bien choisir ces appareils ménagers pour faire des économies d'énergie, d'eau. Est-ce qu'il y a une référence, un label, quelque chose qu'il faut suivre pour acheter correctement son électroménager et ne pas gaspiller trop d'eau?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas un label qui le dit vraiment.
Il n'y a pas le A++++ là,
mais
je sur les machines.
Que là, vous me posez une colle parce que ça, c'est l'énergie électrique. Mais je pense que de toute façon, beaucoup s'y sont mis obligatoirement parce que c'est une demande quand même du particulier. Ce qu'il faut faire en plus, c'est pas le tout d'avoir un électroménager performant, c'est qu'il faut aussi que vous mettiez à plein votre lave-vaisselle ou votre lave-linge.
Oui, on fait pas tourner.
Par demi-charge, il faut le faire par charge entière.
Mes grands-parents avaient l'habitude de récupérer dans des grands silos en fait l'eau de la pluie. Et alors ils s'en servaient pour tout, pour laver la voiture. Mais moi, je voulais la boire une fois, arroser les plantes, mais ils m'ont dit non, ça c'est quand même pas terrible à boire. On peut la boire ou pas cette eau de pluie?
Vous avez des grands-parents raisonnables, parce que effectivement l'eau de pluie, il faut savoir que elle peut par exemple ruisseler. Elle vient de l'air, elle est au contact de l'air, donc elle ruisselle sur les toits. Dans l'air, elle récupère toutes les pollutions atmosphériques. Ça peut être des vapeurs d'hydrocarbures. Enfin, il y a plein de choses. Sur les toits, elle ramasse. Excusez-moi, mais les crottes d'oiseaux, par exemple, des micro-organismes, des champignons, etc. Donc, on peut récupérer, bien évidemment, pour arroser ses fleurs, nettoyer à l'extérieur, mais il vaut mieux pas s'en servir encore à l'intérieur.
Même si on la fait bouillir?
Alors, vous pouvez, bien évidemment, la faire bouillir. Techniquement, quand même, vous allez y passer du temps, parce que pour faire bouillir l'eau, là...
La laisser refroidir pour ensuite la boire, on est d'accord.
Ça me paraît un peu compliqué, mais vous pouvez.
Je rappelle, Marie Smassi, que vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Et avec vous, on découvre aussi l'histoire de l'eau courante en France. Qui a inventé, créé sur notre territoire le premier réseau de distribution? Est-ce qu'on en a des vestiges?
Alors... C'est peut-être pas le tout premier, mais c'est assez... parce qu'en fait, les Gallo-Romains, enfin les Grecs, les Romains avaient déjà ce genre de système pour des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais il faut savoir aussi que, par exemple, à Versailles, quand le château a été construit, il y a des nobles qui étaient assez malins et qui en fait faisaient des déviations des fontaines avec des tuyaux en cuivre vers leurs hôtels particuliers pour avoir de l'eau courante. Oui. Donc voilà, il y a eu des choses qui se sont mises petit à petit en place, mais il faut savoir que très très longtemps, ça a été des porteurs d'eau qui portaient l'eau jusqu'à chez vous pour remplir les baignoires ou la bassine pour se laver. Mmh. Et
Le pont du Gard, c'est un bel c'est un monument
tout à fait, tout à fait. Et ça permettait d'avoir de l'eau en ville. Tout le monde a toujours recherché l'eau en ville. En tout cas, pour ce qui est de la France, je pense que c'est vraiment fin du 19e où on a commencé, évidemment, pour les personnes les plus aisées, à avoir des robinets qui coulent chez soi. Mais vous savez, en 1980, on avait des TGV en France qui commençaient à circuler à très grande vitesse et beaucoup de gens n'avaient pas encore l'eau au robinet.
Alors justement, pendant des siècles, l'eau courante était un privilège en France. On vous raconte sa démocratisation dans un instant sur RTL.
Jusqu'à 15h.
Mon corps est en pleine croissance.
Il me faut de l'eau. De l'eau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils enrichissent chaque jour l'eau de Volvic des plus précieux éléments de cette jeunesse. Les oligo-éléments.
Les curieux sont sur RTL.
Au vent de l'eau. Il y a cette vie qui...
Et toujours avec nous, Marie Smassé, vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Vous nous racontez à la fois d'où elle vient, comment elle est retraitée, travaillée, acheminée jusque chez nous, et puis l'histoire de l'eau courante en France. Il y a un dernier petit conseil de consommation. Bon, on rappelle que la douche, c'est quand même beaucoup moins, c'est entre 60 et 80 litres d'eau, c'est ça, par rapport au bain.
Oui,
c'est,
tout à fait.
Le bain, c'est 200 litres. L'eau de la douche ou du bain, parce qu'on a souvent cette discussion, c'est pas grave, je laisse couler l'eau pendant que je me brosse les dents, ou alors je prends un bain. De toute façon, elle est recyclée, c'est vrai ?
Alors, c'est pas exactement comme ça, c'est qu'elle est dépolluée. Quand elle part, quand elle disparaît de chez vous, elle va dans les égouts et elle est dépolluée. Et c'est une obligation maintenant de dépolluer les eaux que l'on a utilisées. C'est une obligation pour la bonne qualité de l'environnement, parce que sinon, ça détruit l'environnement, hein, avec tous les produits que l'on y met, les savons, les lessives, etc. Et puis deux, c'est aussi une protection pour la santé humaine. Je vous donne un exemple. Il y a encore 10, 20 ans, on voyait des égouts qui arrivaient près des eaux de baignade en mer. Ouais. Et étonnamment, on avait des otites ou on avait des gastro à cette époque-là.
Donc, laisser couler l'eau quand on se brosse les dents, par exemple, ou quand on prend des bains tous les jours, ça a un impact, c'est un coût financier.
De toute façon, oui, c'est un coût financier parce que la dépollution n'est pas gratuite. Hein. C'est des technologies de pointe qui sont faites dans des usines de dépollution et donc qui coûtent de l'argent.
Et ça se répercute sur nos impôts ?
Sur notre facture ou sur vos charges quand vous habitez dans un immeuble.
Mais quel que soit le lieu, que ce soit dans une grande ville ou même une maison isolée à la campagne, l'eau, elle sera forcément dépolluée.
Oui, parce que
elle
c'est
part
une...
pas dans la nature. Quoi.
Non, c'est une obligation réglementaire maintenant qui est faite par l'Europe. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes en tout à l'égout. Là, c'est une station qui le fait pour vous. Soit vous êtes tout seul à la campagne, trop éloigné. Eh bien, vous avez ce qu'on appelait avant les fosses septiques. Maintenant, on appelle ça de l'assainissement individuel. Mmh. Mais c'est la même chose et c'est une obligation justement pour ne pas polluer.
Mmh. Allez, on retourne au Moyen-Âge pour découvrir comment cette eau courante était notamment acheminée dans un château. Est-ce qu'on avait l'eau courante dans un château au Moyen-Âge ?
Je pense qu'heureusement qu'on avait des serviteurs pour l'amener jusqu'à chez vous quand même.
Pas de... Ce sont les fameux porteurs d'eau, c'est ça que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, je pense qu'on a perdu entre le confort qu'on devait connaître à l'Antiquité et puis ensuite au Moyen-Âge ou un peu plus tard, on a dû perdre beaucoup de confort. En revanche, quand on dit que le bas Moyen-Âge, c'était un peu obscurantiste, je pense que c'est faux parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément de bains publics qui permettaient aux gens de se laver.
Donc il y avait déjà une préoccupation de l'hygiène, ça que vous voulez dire ?
À cette époque, il y avait une hygiène. On l'a reperdue après. Hein. On a tous entendu parler de ce 18e siècle pas très propre et où on avait inventé le parfum pour...
dissimuler tout ça.
Pour dissimuler, mais on a été... Il y a des périodes où l'hygiène était très, très importante. Mmh.
Mais les porteurs d'eau dans le Paris du début du 18e siècle, c'était quoi ? C'était un vrai métier ? C'était une corporation ?
C'était une corporation. Les porteurs d'eau, c'était une corporation. Et notamment, c'est assez amusant, mais au 18e, le fameux Beaumarchais.
Oui.
Vous voyez, qui était écrivain, notamment de pièces de théâtre. Eh bien, il a eu une corporation de porteurs d'eau. Et les porteurs d'eau, en fait, c'était quelque chose de très précieux parce qu'il en fallait partout. Donc, c'était très rémunérateur.
Et cette eau, elle venait d'où, Marie-Lise Massé ?
À Paris ?
Oui.
Elle venait soit des sources qu'il y avait et beaucoup de la Seine. Et à l'époque, on ne purifiait pas.
Ah oui, on avait un bon système immunitaire. Ouais.
Donc, mais on s'étonne qu'avant, les gens mouraient vers, alors ça dépend des époques, entre 25, 30 ans, 40 ans, 45
oui,
ans. Mais
peu d'enfants arrivent à l'âge adulte aussi.
Non, ouais. et vous savez qu'on a beaucoup de chance parce que c'est toujours le cas dans certains pays du monde. Il y avait un spécialiste de l'eau qui, il y a plusieurs années déjà, disait toujours on ne s'en rend pas compte, on n'en parle pas, mais chaque jour, il tombe 3 Boeing remplis d'enfants. C'est une réalité, c'est qu'il y a des enfants qui meurent de maladies hydriques tous les jours.
À cause de la mauvaise qualité de l'eau.
Et la plupart du temps, moins de 5 ans.
Ouais. Et on se fait, on parlait de ça tout à l'heure avec Sidonie, on fait la guerre pour l'eau dans certaines régions du monde.
Oui, bien sûr. Quand on parle des guerres actuellement, il y a beaucoup de guerres qui en fait partent aussi de ça. Hein. Israéliens, palestiniens, du côté de l'Éthiopie, du côté de l'Afrique. Mais vous savez, même dans des pays comme les nôtres, sans se faire la guerre, il faut qu'on apprenne à partager entre les différents usages, entre les agriculteurs, entre nous pour nos besoins domestiques. domestique, avec les autres, avec le circuit économique, mmh. etc. Parce que tout le monde a besoin d'eau et elle devient un peu plus rare. Donc il faut vraiment s'organiser et sans aller à la guerre, apprendre le partage.
Allez, on a encore plein de questions à vous poser sur l'eau, ce trésor. Tiens, par exemple, à partir de quand on a vraiment pu parler d'une eau courante, d'une eau du robinet pour tous en France? On vous dit ça dans un court instant et puis juste après.
Ce sera Carnaval sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue.
Brassens pour nous accompagner. Dernière séquence consacrée au cycle de l'eau dans la curiosité avec Marylis Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Vous nous disiez tout à l'heure, ça m'a fait tiquer, en 1980, on roule en TGV et tout le monde n'a pas l'eau courante en France. Mais ça veut dire que ça date de quand, l'eau du robinet pour tous en France?
Je pense que dans les années 80, on a terminé justement les adductions, hein, oui. en allant jusque dans les milieux ruraux les plus éloignés. Maintenant, on en est à 99,9% des personnes qui ont l'eau courante. Mais c'est vrai que ça a été long et il faut savoir quand même que ça a un coût d'installer l'eau courante. En France, on a la distance de 900 000 km de tuyaux en tout pour amener l'eau partout. C'est-à-dire que ça doit être une distance à peu près Terre-Lune. Mais ce n'est pas le tout de les installer, c'est qu'après, il faut les entretenir.
Les entretenir,
des fuites, ça casse, etc. Et ça coûte très très cher. On dit que dans un milieu rural, par exemple, un peu hostile, c'est-à-dire beaucoup de passages de camions, par exemple, ou beaucoup de froid, enfin pas mal de raisons, ça peut coûter jusqu'à 1 million le kilomètre à remplacer. Donc, vous voyez, ça vous donne un peu une idée.
Et cette eau qui est donc contrôlée, l'eau du robinet, il faut rappeler qu'elle est très bonne à la consommation.
Ah oui. Depuis une quinzaine d'années, ça n'a pas arrêté de s'améliorer. C'est quand même le produit alimentaire le plus contrôlé.
C'est valable pour toutes les régions, ça, Marylis
oui.
Massé de France.
Quand il peut y avoir un souci ponctuel, on ne va pas dire qu'il n'en existe pas. Ça peut arriver. Il y a des endroits, c'est plus compliqué d'avoir de l'eau de très bonne qualité. Mais bref, globalement, on a une eau de très bonne qualité.
À partir de quel âge on peut la boire, cette eau?
6 mois.
6 mois.
Avant, on pourrait, mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours la même eau sous la main. On ne va pas s'informer tout le temps. Donc, je pense qu'à partir de 6 mois, tout le monde peut boire de l'eau du robinet. Il faut savoir quand même que c'est un produit qui n'est pas cher. Enfin, moi, je ne connais pas de produit alimentaire qui soit si peu cher. 2,5 litres d'eau du robinet, c'est 1 centime.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.